Nous avions été si heureux de voir l'audience de remise en liberté fixée à 3 semaines. Cela avait été un grand soulagement pour ma famille comme pour mes avocats. Mais l'esprit humain est fait ainsi. Le cerveau est équipé pour que l'être humain perçoive et anticipe la menace qui l'entoure. Nous sommes toujours inquiets à propos du futur, ce qui est la meilleure façon de se gâcher le présent. Avec l'approche de ce rendez-vous tellement important, le soulagement avait laissé place à une inquiétude croissante. Carla ne me le disait pas, mais je sentais son angoisse. Mes avocats voulaient que je me prépare au mieux à cette audience. Ils avaient raison. On ne travaille et on n'anticipe jamais assez. J'avais décidé de ne pas me rendre à la cour, car on m'avait indiqué que si je souhaitais être physiquement présent, je serais alors menotté. Cette perspective ne me réjouissait guère. Mes avocats m'avaient prévenu que le président de la cour me poserait sans doute des questions sur la prison et sur la manière dont je la vivais, mais que je pouvais comparaître en visioconférence de la santé, ce qui évitait que je subisse ces inconvénients qui n'étaient pas des détails à mes yeux. J'étais rassuré par les précautions prises concernant ma situation et le respect de mon intimité. Les photographies, les enregistrements, les portables seraient strictement interdits. Aucune image ne serait prise. Aucune prise de son sauvage ne serait tolérée. J'étais quelque peu tranquillisé, même si je savais que la salle d'audience serait bondée de journalistes et d'observateurs, ce qui ne me gênait pas, puisque je préférais que le débat sur ma remise en liberté ait lieu devant les Français pour qu'ils soient témoins de la décision qui serait prise. Était-ce la marque de mon tempérament, de mon incorrigible optimisme, mais j'étais sans doute le moins angoissé de l'équipe, bien qu'étant le plus concerné. Mon raisonnement est toujours le même. Je refuse de donner à mes adversaires la satisfaction de me voir cesser de vivre en gâchant mon présent jusqu'au moment où le malheur pourrait arriver. Il surviendra bien assez tôt. Il sera toujours temps d'en souffrir et de s'en plaindre. Pourquoi anticiper cette souffrance et surtout l'allonger? Je demeurai tranquille et concentré. J'étais au fond de moi persuadé que cette détention invraisemblable marquerait un tournant, qu'il ne fallait jamais désespérer de l'être humain et donc garder l'espoir de la justice, et dans la justice. Peut-être étais-je trop naïf, l'avenir ne tarderait pas à le dire. Mais à tout prendre, je préférais être ainsi que rétréci par l'amertume, la peur et la haine. Cet état d'esprit m'aidait à supporter cette épreuve et était de surcroît la meilleure façon d'encourager ma famille à tenir. La question se posait quant à la tonalité de mon propos face à la cour. Si je ne disais pas que je souffrais de l'enfermement, les juges pourraient penser que je les provoquais et que je n'avais pas pris les choses au sérieux. À l'inverse, si j'en faisais trop, je risquais d'être présenté comme impudique, faible, cherchant à les apitoyer. Les observateurs en feraient leur chou gras. Je ne comptais guère sur leur bienveillance. Naturellement, je souhaitais retrouver ma liberté le plus vite possible. C'était ma priorité, chacun peut le comprendre. Mais je ne le désirais pas au point de me renier. Au prix du mensonge, ou à celui de mettre un genou à terre, comme si je courbais l'échine devant l'injustice qui m'était faite. Ce tournant n'était pas le plus facile à négocier. Quand j'ai affirmé que j'irais jusqu'au bout pour que la vérité triomphe, ce n'était pas que des mots, une posture, une façon de m'exprimer. C'est l'engagement de ma vie. Peut-être que celle-ci ressemble à un roman, comme j'ai pu souvent le lire. Mais moi, je ne vis pas dans un livre. Je vis dans la réalité. Et cette réalité, c'est d'abord celle de mon innocence complète. Tant que je disposerai d'un souffle de vie, je me battrai de toutes mes forces pour la démontrer, quel que soit le temps que cela prendra. Certains commentateurs, ou même certains de mes amis, se plaisent à évoquer ce roman que serait mon existence, avec ses très hauts et ses très bas, ses grandes joies et ses peines profondes, ses désespérances passagères et ses espérances pour demain. Je sais qu'il y a dans cette analyse une part de vérité. Je n'ignore nullement qu'il peut y avoir une réelle affection de la part de ceux qui s'expriment ainsi. Mais avant de vivre les émotions du romanesque, il me faut assumer la douleur du quotidien. Or, je ne me suis jamais vu comme quelqu'un de différent des autres. J'ai trop conscience de ma normalité pour me laisser entraîner par l'enchaînement des événements, contraires ou favorables, vers les cimes où l'on peut perdre pied. Au fond, ma vie est semblable à celle de tous, au regard des questions essentielles que sont la vie, la mort, le sens, la cohérence de nos existences. Je n'accepterai donc pas l'injustice comme prix de cette fiction fantasmée pour la beauté de l'histoire. Je veux ma réhabilitation complète. À l'origine de toute l'affaire, il y a l'officine Mediapart et ce fameux document dont le tribunal correctionnel de Paris a jugé que le plus probable est qu'il soit un faux. Enfin ! Il aura fallu pas moins de 13 années pour que la honteuse supercherie soit démasquée. Il était grand temps. Un retour en arrière s'impose pour comprendre les ficelles de ce grossier traquenard de base politique. L'objectif était d'abord de me faire perdre l'élection présidentielle de 2012, alors que j'étais en train de faire une remontée spectaculaire. Le premier tour avait créé la stupeur chez mes adversaires, puisque je talonnais mon concurrent socialiste avec plus de 27% des suffrages, ce que personne n'avait anticipé. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que les sondages m'avaient crédité à la fin du mois de janvier de la même année d'à peine plus de 40% au second tour. Le journal Libération, toujours lucide, annonçait Hollande vainqueur à 60%, c'est dire, si la surprise était grande et la remontée remarquable, la fébrilité s'était emparée de mes adversaires, ma victoire redevenait possible à défaut d'être probable, il fallait à tout prix casser cette dynamique aussi inattendue qu'imprévue. Sur le terrain où je faisais campagne chaque jour, la mobilisation était en train de prendre, mes électeurs redevenaient confiants, les foules étaient très nombreuses dans mes réunions, je me battais avec énergie. J'étais assez seul politiquement, beaucoup dans la majorité avaient anticipé la défaite, mais je me sentais soutenu par une base électorale qui, en fait, ne m'avait jamais lâché. À l'époque, le fameux document de Mediapart avait été proposé au Canard enchaîné. Celui-ci avait refusé de le publier, considérant que sa crédibilité était plus que douteuse. Et pourtant, cette rédaction ne passait pas pour favorable ni à ma personne ni à ma politique. C'était le moins que l'on puisse dire. Pour les journalistes qui l'avaient examiné, l'authenticité ne pouvait être établie. Et ils ne voulaient pas prendre le risque de publier une information aussi discutable. Mediapart n'a pas eu ce genre de pudeur. Il fallait me détruire à n'importe quel prix, de n'importe quelle façon. En quelque sorte, la fin justifiait les moyens. Le document fut donc publié par cette officine le samedi 28 avril 2012, alors que je tenais meeting à Clermont-Ferrand, dans la ville de Brice-Hortefeux. Selon le document, ce dernier était prétendument le vecteur du financement. Bah, cela tombait bien. J'étais avec lui, le piège politique était clair. Au début, l'affaire n'a pas fait grand bruit. Malgré tout, j'avais demandé à mon avocat de déposer plainte pour faux et usage de faux. Totalement serein. Je ne voyais pas comment cette rocambolesque affaire pourrait prospérer. C'était inenvisageable, en tout cas dans mon esprit. La polémique avait un peu progressé, je mettais cette agitation sur le compte de la campagne présidentielle qui battait son plein, davantage que sur la crédibilité qui pourrait être accordée à ce document. Ce faux s'inscrivait dans le prolongement des accusations mensongères de Kadhafi et de ses sbires, proférées un an plus tôt, alors que j'avais demandé le départ du dirigeant libyen du pouvoir, reçu l'opposition à l'Élysée et déposé au nom de la France un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une intervention aérienne. Un fils du leader libyen affirma que la Libye avait financé ma campagne de 2007 et précisa « Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert, nous révélerons tout prochainement. » Naturellement, rien ne fut produit. Pas le plus petit document, pas la moindre banque, pas l'ombre d'un compte sulfureux. Je précise que Kadhafi était au pouvoir, qu'il y est resté encore 6 mois après cette fracassante déclaration, sans que la moindre preuve n'apparaisse. Le vide était abyssal, et pour cause. Mais incontestablement, les déclarations kadhafistes, visant à décrédibiliser mon action diplomatique en faveur du peuple libyen, ont été instrumentalisées par Mediapart, avec la diffusion dans le contexte de l'entre-deux-tours de ce document considéré désormais comme probablement faux par la justice. Tout était invraisemblable, et pourtant. Depuis 13 ans, Mediapart est engagé dans un combat pour tenter de crédibiliser ce document et de me nuire. L'officine n'a eu de cesse de mettre en avant des témoignages à charge d'anciens dignitaires libyens, finalement qualifiés par le tribunal d'indirects, imprécis, voire contradictoires et non corroborés. Elle a trouvé un allié, à minima de circonstances, dans la personne de Ziad Takieddine. Alors qu'il avait commencé par contester vigoureusement dans la presse l'existence de tout financement de la campagne de 2007 par la Libye après les premières accusations de Mediapart, il a soudainement changé de position pour multiplier les déclarations contraires, toutes plus contradictoires les unes que les autres, tant devant la justice que dans les médias. C'est donc sur le fondement des déclarations de ce dernier, couplées au fond document de Mediapart, que la machine judiciaire a été mise en route avec l'ouverture d'une information judiciaire au début de l'année 2013. Ces éléments ont jusqu'à mon renvoi devant le tribunal correctionnel constitué le pilier des accusations. Dès 2015 pourtant, un rapport de gendarmerie avait conclu que la publication de la note Mediapart était déontologiquement impropre et qu'il existait une forte probabilité pour que le document produit par Mediapart soit un faux. Si les juges d'instruction n'ont pas suivi cette conclusion en rendant une ordonnance de non-lieu, c'est parce que Mediapart a toujours refusé de fournir l'original du document aux enquêteurs, empêchant ainsi qu'une expertise sérieuse soit diligentée sur sa conception. Avait-il quelque chose à cacher? C'est ma conviction. Et cela devrait être celle de tout observateur de bonne foi. S'agissant de Ziad Takieddine, condamné ensuite définitivement, notamment pour faux témoignages dans l'affaire Karachi, ses mensonges sont démontrés aussi bien par leurs contradictions que par les promesses jamais tenues de production de preuves. La dernière allégation mensongère de cette curieuse alliance survint en 2016, quelques jours avant la primaire de la droite à laquelle j'étais candidat. Dans une vidéo diffusée par Mediapart, Ziad Takieddine prétendait pour la première fois avoir transporté des valises d'espèces depuis la Libye jusqu'au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, tout en niant qu'elles étaient destinées au financement de ma campagne. Il allait jusqu'à affirmer m'avoir remis, personnellement, une valise à une date précise, le dimanche 28 janvier 2007. Mais j'ai pu démontrer son mensonge en établissant que j'étais absent de Paris ce jour-là, fêtant mon anniversaire chez mon frère dans le sud de la France. Ce fait a été reconnu tant par les juges d'instruction que par le tribunal. Autre point intéressant. Entendu le jour même de la diffusion de la vidéo par les enquêteurs, Ziad Takieddine indiquait que ces déclarations étaient fondées sur un document couvert par le secret de l'instruction qui lui avait été révélé par un journaliste de Mediapart. 13 ans plus tard, il est fou de constater que le faux de Mediapart a été totalement abandonné à l'audience par le parquet national financier dans ses réquisitions, tant son authenticité est exclue, et tant son contenu, l'allégation d'un prétendu financement à hauteur de 50 millions d'euros, révèle les failles probatoires, béantes, d'un dossier dans lequel on n'a pas trouvé un centime d'argent illégal dans ma campagne. Reste deux questions qui demeurent aujourd'hui, encore sans réponse, et que je continuerai à poser jusqu'à ce que j'en obtienne une. Maintenant que le faux est établi, pourquoi le parquet financier s'y prend à engager une enquête contre moi sur cette base ? N'a-t-il toujours pas rouvert le dossier pour connaître l'identité des faussaires ayant forgé ce document ? Des millions d'euros ont été dépensés en pure perte. Pas moins de 58 commissions rogatoires internationales ont été délivrées. Des dizaines de magistrats et de policiers ont été mobilisés. Il serait utile de savoir qui sont les responsables de cette manipulation de grande ampleur. La deuxième question me paraît tout aussi pertinente. S'il y a eu un faux, ce qui semble désormais admis, c'est donc qu'il y a eu un ou des faussaires. Et donc qu'il y a bien eu un complot à l'origine de toute la procédure. La combinaison du complot et de l'absence de tout élément matériel aurait dû conduire à me mettre hors de cause dans cette sordide affaire, au lieu de me persécuter pendant plus de 10 ans. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai ainsi subi des perquisitions, des gardes à vue, des dizaines d'heures d'interrogatoires sur la base de ce faux et des mensonges eux aussi avérés et reconnus par le tribunal correctionnel de Ziad Takeddine comme des dignitaires kadhafistes. Qui sont les parties prenantes de cette machination ? Où sont-ils ? Quels sont leurs motifs ? S'il n'y a pas d'enquête, on ne pourra pas les trouver. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête ? J'étais, du moins je l'espérais, dans ma dernière semaine de détention. Hélas, cela ne faisait pas passer le temps plus vite, bien au contraire. Je me sentais comme le marin qui revient de l'autre bout du monde, après des semaines de navigation, et qui aperçoit les rivages de son pays à l'horizon. Comme ces derniers milles doivent lui sembler interminables. L'impatience me gagnait un peu plus chaque jour. J'essayais tant bien que mal de rester concentré et de continuer à m'occuper, à travailler, à lire, tout faire, pour demeurer dans ma bulle et ne pas me dérégler. C'est à ce moment que Jean-Michel Darroy revint sur l'opportunité de la visite de l'ambassadeur américain qui devait avoir lieu le lendemain. « Je ne le sens pas, me dit-il. Nous sommes trop près de l'audience de mise en liberté, ne prenons pas de risques. » J'étais bien obligé de considérer son point de vue. Peut-être mon avocat n'avait-il pas tort. Son argument était que ma remise en liberté devait être la priorité. Or, si la visite se passait bien, elle ne m'apporterait rien sur un plan judiciaire. En revanche, il existait un petit risque que cette visite soit mal interprétée, ce qui n'était pas souhaitable. Je réfléchis un instant et considérais qu'il ne fallait pas jouer avec le feu. Le contexte médiatique était déjà assez sensible, il convenait de ne pas en rajouter. Je me rangeais donc à l'avis de mon conseil, je rencontrerai l'ambassadeur américain une fois sorti de prison et non durant mon séjour à la santé. Ce n'était sans doute pas très courageux, mais ça avait le mérite d'être prudent. J'avais privilégié la prudence, c'était donc bien la confirmation que j'avançais en âge. C'était peut-être celui-ci qui était également responsable du mal de dos qui me tenaillait depuis 48 heures. Contrairement au bruit qui avait couru dans certaines rédactions, je n'étais jamais allé à l'infirmerie depuis le début de mon incarcération. L'une des médecins de la prison était venue me rendre visite de sa propre initiative, comme elle le faisait pour tous les détenus. J'étais dans ma cellule lorsqu'elle demanda à me voir, sans que je l'aie sollicité. J'en acceptais le principe, mon emploi du temps n'était pas à ce point surchargé. Il s'agissait d'une femme d'une cinquantaine d'années. Elle semblait compétente, affable et déterminée à faire son travail avec moi, comme avec n'importe quel prisonnier. Je fus troublé par la balance imposante qu'elle avait apportée. Elle s'adressa à moi avec un peu de gêne. « On ne vous a pas pesé. Lorsque vous êtes arrivé à la prison, je dois le faire maintenant pour surveiller votre poids. » C'était une obsession du directeur, des surveillants et maintenant du médecin. Il était à leurs yeux très important que je ne maigrisse pas trop. J'étais sensible à leur attention. Ils ne souhaitaient sans doute pas que la liberté soit rendue à un homme affaibli. Mais de mon côté, je ne voulais vraiment pas leur causer le moindre ennui. J'acceptai donc de monter sur la balance posée sur le sol de ma cellule. C'était aussi étrange qu'insolite. Je pesais 70 kilos, j'avais perdu un peu de poids, mais rien de problématique, encore moins de dramatique. Mon interlocutrice parut rassurée et heureuse de cette bonne nouvelle. J'en profitai pour lui parler de mon dos douloureux, qu'elle examina consciencieusement. Ce n'était pas grave, mais cela provoquait une grande fatigue. Moins d'une heure après son départ, je reçus les médicaments adaptés à ma situation, avec notamment une pommade antalgique qui me soulagea grandement. J'étais reconnaissant envers cette médecin rencontrée pour l'occasion et qui m'avait dit en me quittant, surtout, « Bon courage, monsieur le président ». C'était vraiment gentil. Décidément, on avait mis sur ma route beaucoup de gens à l'humanité rayonnante. C'est le privilège que m'a réservé ce séjour en prison. S'y apprendre, c'est rester jeune. La prison m'aura rajeuni parce que j'ai beaucoup appris. Je pouvais constater que le système de santé carcérale était plus efficace ou au moins plus présent que je ne l'avais imaginé. Le lendemain, la même professionnelle de santé me demanda si je souhaitais avoir un rendez-vous avec le kinésithérapeute. Je refusais. Mais j'étais impressionné d'en avoir eu la possibilité. Indépendamment de mon statut, ces personnels étaient présents et disponibles pour tous les détenus. On parle suffisamment des problèmes de la prison pour ne pas manquer de souligner les choses qui fonctionnent bien. Et cela m'avait donné l'impression qu'il en était ainsi, au moins pour les questions sanitaires.